Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode numéro 79. Comme d'habitude, nous retrouvons notre expert, Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Nathanaël, aujourd'hui l'un des sujets qu'on va aborder, c'est la question du passeport sanitaire, une option envisagée par l'Union européenne pour permettre le retour des touristes et d'autres personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne.
Alors effectivement, Grégory, on est dans le calendrier du Covid-19 au moment où on parle de ce passeport vaccinal. C'est, si on peut dire, la quatrième étape. Hein. On avait eu le confinement, on avait eu la vaccination, on a maintenant les déconfinements. Et puis là, on va parler finalement des mouvements de personnes dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, mais aussi avec des pays hors Union européenne. Et un des gros enjeux, Grégory, de ces mouvements de personnes, c'est la question du passeport, la question de ce Graal qui va permettre aux voyageurs, selon certains critères, selon certaines décisions qui ne sont pas équivalentes et qui ne sont surtout pas similaires entre tous les pays, de rentrer dans un pays ou dans un autre pays. Donc là, on en est à un point où l'Union européenne et les différents États membres se sont mis d'accord cette semaine pour permettre l'entrée dans l'Union européenne aux voyageurs de pays tiers ayant reçu des doses nécessaires de vaccins anti-Covid. Maintenant, la question, c'est d'établir cette liste. On a pour l'instant une liste assez réduite qui comprend 7 membres, dont l'Australie, d'où on enregistre. Mais la question va vite se poser de savoir, au cas par cas, quel pays et dans quelles conditions des ressortissants étrangers pourront rentrer dans l'Union européenne.
Voilà, parce que effectivement, il semble qu'il y a un accord de principe au sein de l'Union sur la question. En revanche, d'un pays à l'autre, comme vous le disiez à l'instant, les critères d'éligibilité ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. C'est un peu en ordre dispersé.
Ah, c'est en ordre complètement dispersé, mais c'est finalement, avec cette crise sanitaire, on est plutôt habitué à voir ça du côté de l'Union européenne. Ce que véritablement les 27 pays membres, il faut rappeler, on est à 28 moins 1 depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni, c'est ce qu'ils espèrent, c'est la mise en place d'un certificat vert commun pour faciliter les passages aux frontières. Il faut se rappeler qu'au pic de la crise, on avait eu ces débats, ces questions de la légalité, de la restriction des mouvements au sein de l'Union européenne entre pays membres de l'Union européenne. On a vu ça entre l'Allemagne et la France, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est finalement peut-être de ne pas reproduire ces mêmes erreurs à la fois d'un point de vue logistique, pour que ça se passe bien, pour que le tourisme reprenne, que l'économie reprenne, mais aussi, Grégory, je dirais presque d'un point de vue symbolique, est-ce qu'on arrivera à ne pas fragiliser Schengen avec cette question du passeport vaccinal, comme elle a pu être fragilisée au moment des restrictions et des premiers confinements.
Et du coup, est-ce qu'on voit, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une réunion cette semaine pour aborder le sujet, est-ce que les choses ont pu être un peu aplanies ou on est encore dans le flou pour l'instant?
Alors, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les ambassadeurs des 27 ont approuvé cette recommandation de laisser les voyageurs de pays tiers qui ont reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid rentrer dans l'Union européenne. C'était une recommandation qui avait été proposée par la Commission européenne, mais rappelons-le, sans rentrer dans les détails, qui n'est pas d'application contraignante. Donc après, ça veut dire que chaque État, finalement, malgré cette proposition faite par la Commission européenne, approuvée par les ambassadeurs, chaque pays après sera libre ou pas d'appliquer cela. Alors, il n'y a pas de raison sur le papier a priori que des pays soient réticents parce que, encore une fois, ça va permettre de relancer la saison touristique là, à partir du mois de juin et puis l'économie en général. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri, pas tellement par rapport à ces questions de l'intérêt économique d'avoir du passage, d'avoir des mouvements au sein de l'Union européenne, mais plus par rapport au fait que chaque pays peut avoir des normes qui peuvent être un petit peu différentes. Par exemple, est-ce qu'on parle de personnes, est-ce qu'on doit maintenir ou pas les masques? Est-ce qu'on doit avoir un test PCR valide malgré le fait d'avoir été vacciné? Donc c'est plutôt, maintenant, le diable est dans les détails, et même pour ces mouvements de personnes au sein de l'Union européenne, le diable sera dans les détails de savoir, en fait, quelle sera tout l'ampleur de ce passeport vaccinal et de son application au sein de chaque pays de l'Union européenne. Et puis, il y a un autre enjeu, Grégory, c'est qu'il y a tout un travail aussi à faire pour coordonner au niveau de tous les pays de l'Union européenne ce passeport vaccinal. Mais dans l'intervalle, comme les pays n'ont pas tous été sur le même calendrier de déconfinement, on a déjà des initiatives qui sont sorties au sein de certains pays d'une espèce de passeport interne, de passeport sanitaire interne. Donc maintenant, la question, ça va être aussi comment on va réussir à harmoniser ce qui a déjà été produit, ce qui est déjà sorti en termes de passe sanitaire avec quelque chose de plus global, valide, cohérent, efficace au niveau de l'Union européenne. Pour prendre un exemple un peu et pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit, c'est finalement comme ce qui s'est passé en France. On avait le système officiel de réservation de vaccins, les plateformes officielles, avec les canaux officiels qui ont tardé à se mettre en place et qui ont rencontré certaines réticences et certains blocages. Et on avait eu à côté des initiatives plutôt faites par des data scientists individuels, comme la plateforme Vitmados, qui ont permis d'accélérer le processus là. Bah là, ce sera la même chose. C'est comment est-ce qu'on va réussir à concilier des initiatives individuelles d'État avec quelque chose de plus global au risque d'avoir moins d'efficacité parce que ce sera plus compliqué à coordonner au niveau des 27 États membres.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure que le diable se cachait dans les détails et qu'il fallait encore affiner beaucoup tout ça. Il me semble que l'une des conditions proposées par l'Union européenne pour ce passeport vaccinal, déjà, c'est que les personnes qui souhaitent entrer dans l'Union européenne soient vaccinées avec des vaccins validés et approuvés par les autorités européennes. Donc, a priori, pour les touristes américains, pas de problème. Mais par contre, les Chinois, on sait que c'est une source de revenus touristiques très importante pour à peu près tous les pays de l'Union qui sont vaccinés avec leur propre vaccin chinois qui n'est pas reconnu en Europe. De fait, les Chinois ne vont pas pouvoir revenir dans l'Union européenne, même s'ils sont vaccinés, parce que leur vaccin ne vaut rien aux yeux de Bruxelles.
Oui, Grégory, c'est un très bon point, mais je vais même le prendre et le développer un peu plus. Une question similaire va se poser aussi avec, par exemple, une deuxième ou une troisième injection de Pfizer. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas sûr que pour le Pfizer, par exemple, on ne doit pas faire comme le vaccin saisonnier pour la grippe et avoir une injection annuelle. Et donc, un certain nombre de la population européenne qui a été vaccinée en ce début d'année 2021 et a reçu les deux doses de Pfizer devra peut-être recevoir une troisième dose un an après, donc début de l'année prochaine. Donc, ce n'est pas seulement par rapport aux vaccins qui sont homologués, reconnus par l'Union européenne, mais c'est une question logistique et de processus bien plus importante. C'est comment est-ce qu'à moyen, long terme, on va organiser ces mouvements de personnes, sachant qu'on tâtonne encore sur les processus vaccinaux, qu'on a toujours des essais cliniques qui sont en cours sur les troisièmes doses de vaccins. Le Royaume-Uni, par exemple, a lancé une étude sur une troisième dose de vaccin et des essais cliniques sur la réponse immunitaire qui serait engendrée par une troisième dose de vaccin anti-Covid. Donc, vous voyez, on est au-delà du cas, j'allais dire, chinois, qui est très important pour des questions de manne touristique. On ne sait pas encore ce qu'il va se passer en vue d'une troisième dose potentielle de vaccin, donc là qui concernera pas seulement les vaccins non homologués, mais qui pourrait concerner les vaccins homologués par l'Union européenne et dont une grande partie du continent a reçu l'injection ces derniers mois.
Effectivement, c'est toute la difficulté sur ce sujet, c'est que tout est nouveau, y compris ces vaccins, et comme vous le disiez un peu plus tôt, on ne sait pas encore effectivement si les deux doses reçues par certains seront suffisantes ou s'il faudrait effectivement les renouveler. Et donc si les règles qui sont en train d'être élaborées devront être ajustées très probablement. Alors Nathanaël, deuxième sujet pour cet épisode d'Europa Voice. On a quitté Bruxelles pour la France puisque on a un scrutin assez important le mois prochain, les élections régionales. Ces élections, forcément, elles sont un petit peu particulières puisqu'elles interviennent moins d'un an avant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a donc un risque ou une chance des intérêts nationaux se mêlent à des élections qui devraient se focaliser sur des problématiques plutôt locales?
Alors, je crois, Grégory, que c'est une constante en fait, de ces élections régionales et d'une manière générale des élections locales en France, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance à nationaliser ces scrutins. Dans Europa Voice, on est habitué à traiter de différentes élections importantes dans différents pays de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'à chaque fois, en France, on peut même prendre par une petite élection locale ou une élection régionale ou n'importe quelle élection intermédiaire, et on le voit, il y a cette tendance à nationaliser le scrutin. Mais je crois que pour ces élections régionales, Grégory, pour moi, il y a quatre caractéristiques un peu inédites en ce moment. Il y a d'abord, comme vous l'avez dit, du fait du décalage d'un an, une proximité avec les présidentielles qui n'a jamais eu. D'habitude, on est sur plutôt 2 ans. Hein. On avait les élections régionales en 2010, puis après les élections présidentielles en 2012. Pareil en 2015, en 2017. Là, du fait de l'épisode de Covid, on a aussi, de manière vraiment temporelle, hein, une proximité avec la présidentielle jamais vue auparavant. Donc, ça participe encore un peu plus de cette nationalisation de l'élection. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et on va encore gasser du sucre sur le dos de notre ami Covid, c'est une élection sans campagne à cause du Covid. À cause des restrictions de déplacement, des couvre-feux, c'est une première en France où on va avoir une élection où on n'a pas eu véritablement de campagne électorale. Et donc ça, forcément, comme vous avez des élus de terrain, des candidats peut-être qui sont un peu moins connus, mais qui rattrapent finalement ce déficit de notoriété en faisant campagne, ben là, il y a une tendance aussi à forcément aller chercher du côté du national, parce que ce sont des éléments qui sont connus du grand public. Donc, deuxième caractéristique, une élection sans campagne. Troisième caractéristique, Grégory, c'est, et ça, c'est pas à cause du Covid, mais à cause de ou grâce ou par le fait que Emmanuel Macron et son parti sont nouveaux sur la scène politique française, on a un parti présidentiel qui n'est dans aucune majorité régionale, dans aucun exécutif régional. À l'heure actuelle, tous les exécutifs régionaux sont dirigés par des partis au pouvoir depuis des dizaines d'années. Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Muselier en PACA, Jean Rottner dans le Grand Est, ou des candidats de gauche, par exemple Marie-Lude Dufay en Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous voyez, on a pour la première fois aussi un parti présidentiel qui n'est pas implanté via ces élections régionales. Et donc forcément, pour le parti présidentiel, le seul moyen de gagner en notoriété dans ces élections locales, c'est encore une fois de le ramener au niveau national. Et puis le dernier élément, Grégory, pour moi, qui est assez caractéristique, on a pour l'instant toujours un Rassemblement national, un ex-Front national qui n'est à la tête d'aucun exécutif, mais on a aussi cette impression qu'il est aux portes du pouvoir. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est une tendance qui va de pair et qui s'aligne avec la tendance aussi au niveau national d'avoir des scores de plus en plus importants pour le Rassemblement national au moment des élections nationales. Mais là, on le voit véritablement, il y a un risque, notamment en région PACA, il y a eu des derniers sondages où Thierry Mariani, un transfuge des Républicains qui maintenant est au Rassemblement national,
ancien est donné... élu représentant les Français d'Australie d'ailleurs.
Exactement, un élu que connaissent bien les Français d'Australie, mais qui est donné gagnant, quels que soient les triangulaires au deuxième tour, en PACA. Donc c'est la quatrième caractéristique. Quatre caractéristiques: une proximité avec les présidentielles, une élection sans campagne, un parti présidentiel qui n'est pas dans les majorités régionales, et un Rassemblement national plus proche que jamais des portes du pouvoir.
Et les résultats de ces élections, alors région par région, mais à l'échelle nationale, à quel point pourrait-elle être un indicateur de l'élection présidentielle, des résultats pour l'élection présidentielle l'année prochaine? Est-ce qu'on peut projeter ce qui va se passer le mois prochain sur l'année prochaine, ou ça n'a rien à voir?
Je dirais qu'on peut essayer de répondre à cette question en prenant deux approches, en prenant deux points de vue. D'abord, si on prend l'approche ou le point de vue des exécutifs régionaux en place, notamment ceux de droite, on l'a vu, on a des candidats dans les Hauts-de-France comme Xavier Bertrand, ou des candidats en Île-de-France comme Valérie Pécresse, qui ont fait de leur victoire au régional, à la tête de la région, une condition sine qua non de leur candidature à la présidentielle. Donc en fait, on se cache même plus, hein. Y a un lien directement qui est fait entre une victoire au régional et la capacité à se présenter aux élections présidentielles. Donc ça, c'est du côté, j'allais dire, des pouvoirs régionaux en place. On veut utiliser ces élections comme un tremplin pour aller secouer Emmanuel Macron. Du côté du parti présidentiel, on a une stratégie encore une fois, dû à la situation extraordinaire, hein, jamais vue jusqu'à présent du Parti En Marche, de nationalisation du scrutin, qui est intéressante parce que, en fait, en allant même rendre la tâche plus difficile pour les exécutifs régionaux en place et en n'acceptant pas de faire d'alliance dès le premier tour et en envoyant des cadors de la majorité, je pense par exemple, je reprends l'exemple des Hauts-de-France, avec l'envoi du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ça pourrait permettre, je dis bien ça pourrait permettre, c'est une hypothèse comme d'autres, ben, finalement, de pouvoir dire après les résultats du second tour, et sûrement en Hauts-de-France, il y a quand même très peu de chances qu'Éric Dupond-Moretti soit élu, mais si jamais c'est Xavier Bertrand qui est élu, ça permettra de dire au parti présidentiel, à En Marche, de dire bah, c'est grâce à nous finalement, c'est grâce à notre soutien qu'on a pu empêcher et qu'on a permis aux majorités sortantes de battre le Rassemblement national. Donc en fait, de participer aussi à ce storytelling, cette narration de dire on n'a pas perdu ces élections régionales, non, on n'a pas perdu, on a contribué à battre le Rassemblement national et on est le seul parti en vue de 2022 à être capable de battre le Rassemblement national. Donc vous voyez en fait dans les deux cas, on est sur deux stratégies. Dans un cas, on est sur une stratégie de tremplin, utiliser ces régionales pour dire ben, si je suis capable et si j'ai gagné aux régions, je serai capable de gouverner le pays, j'ai fait mes preuves. Et de l'autre côté, du côté d'Emmanuel Macron, de dire nous sommes les seuls capables de faire rempart pour 2022 au Rassemblement national.
Alors, il y a une région où, a priori, il y a assez peu de suspense, c'est la région parisienne, dirigée par Valérie Pécresse, ancienne membre des Républicains, qui a été élue en 2015, après quasiment 20 ans de gestion socialiste. Cette année, elle est face à une gauche extrêmement divisée, les écolos d'un côté, le PS de l'autre. Une candidate médiatique, Audrey Pulvar, pour le PS. Et du coup, tous les sondages donnent Valérie Pécresse gagnante sans aucun problème.
Oui, en Ile-de-France, on a effectivement assez peu de suspense hein, pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup s'accordent à dire que la gestion, le mandat de Valérie Pécresse est un mandat honorable. Hein. Ça, c'est la première raison. En Île-de-France, et puis il y avait surtout ce ras-le-bol, comme vous l'avez mentionné, de ces décennies d'exécutif régional de Jean-Paul Huchon. Et puis la deuxième raison que vous avez aussi mentionné, Grégory, c'est que le rassemblement de la gauche n'est pas encore pour demain dans l'ensemble de la France, et il ne l'est pas non plus à Paris. Et donc si la gauche n'est pas rassemblée à Paris, elle ne pourra pas gagner et venir faire concurrence avec Valérie Pécresse. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, alors en région parisienne, vous avez quand même des pointures du gouvernement qui sont envoyées pour essayer de faire un score. Mais on le voit aussi que Emmanuel Macron investit beaucoup moins en Île-de-France et on voit beaucoup moins. Je crois, hein, j'ai les chiffres, les grandes ordres d'idées, mais par exemple dans les Hauts-de-France, on a 4 ou 5 membres du gouvernement qui sont envoyés aux élections régionales. Donc on voit aussi que pour Emmanuel Macron, on sait déjà que la région Île-de-France est perdue d'avance. Enfin, en tout cas, elle restera aux mains de Valérie Pécresse et à part s'il y a une union de la gauche et une volonté de faire liste commune, il y a peu de raisons que Valérie Pécresse ne soit pas candidate et surtout à sa propre succession.
Alors, toujours là-dessus, sur cette élection francilienne, la candidate du PS, donc Audrey Pulvar, ancienne journaliste, elle est devenue adjointe d'Anne Hidalgo lors des dernières élections municipales. Audrey Pulvar, relativement nouvelle en politique, mais qui a une proposition, en tout cas qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, celle de rendre totalement gratuit les transports en commun en Île-de-France. Les transports en commun en Île-de-France, c'est un budget de 4,5 milliards d'euros par an. Est-ce qu'une proposition pareille, elle est crédible? Et qu'elle soit crédible ou pas, est-ce que vous pensez qu'elle elle a rencontré un écho positif auprès de l'électorat?
Alors je pense tout d'abord, pour répondre à la première partie de la question, je pense que c'est une proposition qui n'est pas crédible du simple fait qu'en fait que c'est un running gag en fait de ces élections régionales ou des élections générales. C'est la proposition de gratuité. En fait, rien n'est gratuit. Les choses peuvent être fortement subventionnées. Et je crois que de plus en plus de personnes savent que la gratuité se paye à un moment ou à un autre quelque part dans la chaîne. Donc, c'est une proposition qui est complètement fantaisiste et surtout, je pense qu'elle n'accroche pas l'électorat du simple fait que si elle était fantaisiste, mais encore si elle était nouvelle, il pourrait y avoir un étonnement ou il pourrait y avoir une curiosité par rapport à cette proposition. Mais c'est quelque chose qui est proposé depuis des années à travers n'importe quelle élection. Donc en fait, je suis persuadé que ce n'est pas quelque chose qui accroche l'électeur. Alors que sur cette question des transports, que vous connaissez bien, Grégory, il y a des sujets qui accrocheraient beaucoup plus l'électeur. La question, par exemple, de la sécurité des transports, la question de la rénovation des matériels, des trains, la question de l'accessibilité. Il y a beaucoup de gares encore dans Paris et en dehors de Paris qui ne sont pas accessibles. Donc, vous voyez, d'un côté, on a une proposition démagogique, fantaisiste, qui ne marche pas. Et de l'autre, on a peut-être des axes plus compliqués, un peu moins sexy sur le papier, mais qui sont certainement même beaucoup plus porteurs en termes d'attrait électoral.
Bon, un scrutin donc de toute évidence qui sera très intéressant. On suivra ça de près. Merci Nathanaël, comme toujours, pour vos éclairages sur ce qui se passe en Europe. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Ce sera le 80e. Il faudra peut-être qu'on fête ça d'ailleurs.
J'espère qu'on fêtera ça de visu, Grégory.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.